Parler de surdité est un défi à la radio, car c'est un public qui ne peut accéder à la radio, mais aussi parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Par exemple, que 80% des sourds seraient illettrés selon une étude jamais sourcée, et sûrement complètement fausse. Ça les empêche pas de le reprendre dans les papiers ministériels, mais bon. Et d'un autre côté, lutter contre la surdité a mené à un nombre incroyable de stratégies et de technologies. De la création des différentes langues des signes au sous-titrage en temps réel avec reconnaissance vocale. Nous connaissons quelqu'un qui parle régulièrement de sa surdité et qui nous fait découvrir beaucoup sur le sujet afin de nous sensibiliser. Nous recevons donc par satellite Sophie Drouvois, responsable front qualité et accessibilité web chez Numérique EA, auteur d'un mémoire sur l'accessibilité et l'Internet des objets, précédemment chargé de communication numérique pour une députée à l'Assemblée nationale et ultra dynamique ex-membre du staff des conférences Paris Web. CPU carré petit utile. Sophie, bonjour.
Au revoir. Merci pour l'invitation.
Et oui, on se parle directement, mais on va expliquer le dispositif exceptionnellement. Donc, on communique là via Google Hangout, à la fois pour la qualité de la transmission sonore, mais aussi parce que toi, tu as un petit bonus.
Oui, on est passé par Google Meet pour avoir une vidéo, une vidéo sous-titrée pour que je puisse communiquer plus facilement avec toi, parce que si j'avais communiqué uniquement par téléphone, ça aurait été drôlement compliqué, parce que j'ai besoin de voir les gens pour communiquer comme vous dites sur les lèvres.
La première question me gêne un peu à te la poser, Sophie, et pourtant elle est importante pour la suite de l'interview. Est-ce que tu es sourde de naissance?
Oui, je suis sourde de naissance.
Et tu es pourtant oralisante.
Oui, j'ai appris à parler. Ma surdité a été découverte quand j'avais 6 mois. Et mes parents, on ne leur a pas trop laissé le choix au final. C'est-à-dire qu'on leur a dit qu'ils voulaient que ma fille parle. Il faut lui parler et pas pratiquer la langue de signes, par exemple. Parce que à l'époque, donc il y a 40 ans, on ne préconisait pas forcément la langue de signes. Donc mes parents ont toujours parlé avec moi. J'ai appris à parler comme ça, en répétant, en parlant, en faisant beaucoup d'heures d'orthophonie également pour apprendre à parler.
Encore une belle décision de l'administration française de remettre en cause une invention française, la langue des signes. Oui, c'est une invention française. Un point qui est important à expliquer à notre audit lectorat est qu'il existe plusieurs types de surdité. Quelle est la tienne spécifiquement?
Il y a plusieurs types de surdité. Il y a une surdité légère, surdité moyenne, surdité sévère et profonde. Il y a 4 types de surdité. Ma surdité est sévère. Et au fur et à mesure où j'ai vieilli, parce que oui, on vieillit tous, hein, malheureusement, ma surdité est passée de sévère à profonde. Profonde, ça veut dire que sans appareil, on n'entend pas les gens parler. Quand on n'a pas les appareils, on peut entendre un 747 décoller à 100 mètres de fois. Sinon, on n'entend rien.
Comment es-tu venu à l'informatique?
Alors, comment je suis venue à l'informatique? C'est très simple. Mon papa était infographiste à l'époque. Et il avait monté une entreprise avec un associé. Et un jour, il m'a emmené avec lui au travail. Et c'était un samedi. Il n'y avait rien à faire dans son bureau. Il m'a mis devant un ordinateur. Et puis, j'ai regardé comment ça marchait. Puis j'ai commencé à prendre la souris, puis je regardais un peu comment ça marchait, puis ça m'a bien plu. Et puis quand on est rentré à la maison, on m'a dit, bah, papa, j'aimerais bien qu'on ait un ordinateur à la maison. Et puis un jour, il a ramené un ordinateur à la maison. Et depuis fil en aiguille, je suis arrivée à aller m'acheter des magazines dans les kiosques de presse. Puis, à l'époque, il y avait des étiquettes avec les magazines, il y avait des lignes de code qu'on pouvait récupérer et qu'on mettait dans son ordinateur. Et donc, à l'époque, il y avait un Atari ST-1024, qui est une belle bête. Et j'ai commencé à coder comme ça. Et Voilà, de fil en aiguille, le progrès fait.
Toute une génération. Et comment es-tu venue à sensibiliser aux soucis d'accessibilité?
Ben, quand j'ai rencontré mon conjoint, on en est arrivé à faire enfin, comme ça, à commencer en fin de compte, parce qu'il ne m'était jamais vraiment posé la question quoi, de la problématique de l'accessibilité. C'est vraiment en rencontrant quelqu'un qui nous dit, ben, parce qu'on aimait bien regarder les films tous les deux, et moi je les regardais en version originale parce que j'étais sous-titrée, et lui il les regardait en version originale parce qu'il aimait bien entendre l'anglais et voir le français écrit. Et un jour, il me dit, non, mais tous les films sont sous-titrés. Et là, je regarde et je lui dis, mais non, c'est pas possible. Il n'y a pas un tiers des films qui sont sous-titrés. Et à l'époque, je me rappelle, il avait une commode avec des cassettes, des VHS. Et il y avait tout enregistré. Et il me dit, mais tiens, on va regarder dans mes cassettes qu'est-ce qui est sous-titré et qu'est-ce qui n'est pas sous-titré. Et bien, on a fait le tri de toutes les cassettes qu'il avait. Et bien, sur les 4 tiroirs de la commode, ben, il y en avait la moitié d'un tiroir qui était sous-titré. Et c'est là où on a fait le constat, où on s'est rendu compte que finalement, ben, il n'y avait quasiment pas d'accessibilité. Et de fil en aiguille, on s'est tous les deux intéressés à ce truc-là, parce qu'on s'est dit, ben, il y a quelque chose à faire. Et puis moi, j'étais souvent sur Internet. Je me disais, mais par exemple, je me suis vraiment intéressée à l'accessibilité à partir du moment où il y avait des vidéos qui sont arrivées sur Internet. Parce que je n'étais pas sous-titrée, alors que ça commençait à être sous-titré à la télé, mais pas sur Internet. Et là, j'ai commencé à faire un site Internet qui s'appelait médiasous-titres.com, sur lequel je recensais toutes les émissions télévisées qui étaient sous-titrées. Et donc, à l'époque, donc, c'était vraiment avant que la loi de 2005 soit votée, qu'il y avait vraiment un listing de ma part où il y avait vraiment, comment je peux dire, où je recensais toutes les émissions sous-titrées à l'époque. Et de fil en aiguille, ben, ça a progressé comme ça avec YouTube. Et puis, ben, pareil, tant qu'on on se dit, ben, il n'y a pas que la sourde, hein, il y a aussi les aveugles, et puis il y a tous les autres handicaps. C'est comme ça que je suis arrivée. Ça m'intéressait,
Comment vivais-tu les technologies assistives à la surdité, le sous-titrage, l'interprétariat en visio? C'était facile à mettre en œuvre ou bien à chaque fois il fallait arriver à le demander?
ben, disons que quand la vidéo est arrivée sur Internet, ça a été compliqué au départ parce que rien n'était sous-titré. Les gens, leur premier réflexe, c'était « Ah bah tiens, je peux me filmer, je vais me filmer. » Et puis, c'était réglé. Enfin, ils ne posaient pas la question de savoir s'il y avait du sous-titre, s'il y avait des alternatives textuelles ou de transcription. Enfin, ils posaient pas, enfin, ça ne posait pas la question à l'époque. Et donc, les sous-titres sont arrivés petit à petit sur YouTube, par exemple. Et puis après, il y a eu le sous-titrage automatique. Alors, le sous-titrage automatique, encore une fois, c'est une technologie qui, encore aujourd'hui, est perfectible, parce que c'est des choses qui ne sont pas vraiment pas que automatiques, mais il y a, comment on peut dire, il y a un travail humain à faire derrière pour que ça soit parfait, parce que sinon, on peut aller très vite en contre-sens, pardon, c'est pas toujours fidèle à la parole. L'interprétation vidéo, ben, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Pas si doux ça, en fait. Enfin, je ne saurais pas dire la date, je ne peux pas dire, mais ça a quand même été une avancée aussi. Quand je repense, entre 2005 et 2022, ben, ça a été long. Et encore aujourd'hui, c'est très long, puisqu'il y a des nouvelles technologies qui apparaissent, par exemple, comme les réseaux sociaux, on a Instagram, TikTok, ben, tous ces trucs-là, ben, ils ne sont pas sous-titrés. En fait, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, comment dire, on s'y approprie, c'est bien. On se dit, ah ben tiens, il n'y a pas d'accessibilité, donc on en rajoute. Et à chaque fois, il y a une nouvelle technique qui arrive, et c'est toujours le même schéma, c'est nouveau. Donc, on rajoute des trucs à chaque fois. Donc, là, encore une fois, TikTok, c'est un réseau qui n'est pas vraiment accessible pour moi, par exemple. Parce que mon père, mais bah, après, je n'ai pas le vin, mais moi, je suis tout jeune. Donc...
Et parlons justement donc de vue, de vision. Quelles sont les limites de la langue des signes, la LSF?
Alors, encore une fois, ça va être un avis très personnel, parce que moi, je ne maîtrise pas totalement la LSF. Enfin, je la maîtrise, mais ce n'est pas ma langue maternelle, donc je ne peux pas dire quelles sont les limites de la LSF. Je pense qu'il faut poser la question à quelqu'un à qui c'est vraiment sa langue maternelle. Moi, c'est pas ma langue maternelle, donc c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Après, on peut dire que la langue des signes m'a beaucoup aidé dans le sens où je pouvais communiquer avec des personnes qui avaient la même identité ou qui n'entendaient pas, avec qui j'ai pu échanger de manière facile et fluide. Alors, c'est vrai que l'apprentissage de la langue des signes est une autre histoire, parce que j'ai appris à parler d'abord. Donc, j'ai découvert la langue des signes, j'étais adolescente, j'avais 16 ans.
Ah oui, c'est tard.
Et à 16 ans, on n'a pas pour idée d'apprendre la langue des signes. En premier, on a aussi la pensée. Donc, moi, je l'ai vraiment appris, mais parce que j'étais un peu dans la contrainte aussi. Et ben, moi, je ne regrette pas aujourd'hui, mais sur le coup, ça a été difficile parce que moi, c'était question du niveau et il fallait que j'apprenne parce que j'étais dans un établissement où mes camarades parlaient en langue des signes et qui voulaient me faire de l'amie. Ben, il fallait que je parle en langue des signes à la récré ou pendant la pause déjeuner. Ce n'était pas toujours évident. Mais je dois dire que j'ai fait des belles rencontres. Enfin, c'est plutôt positif. Après, oui, bon, les lignes, pour revenir à la question, les limites, le fait, je ne peux pas répondre vraiment à la question.
Je t'ai rencontré et découvert à Paris Web où tu montrais une énergie folle. Paris Web, c'est un cycle de journées de conférences avec une forte part sur l'accessibilité et l'inclusivité et où les conférences sont traduites en LSF et sous-titrées en direct. La première fois que tu es allé à Paris Web, comment as-tu vécu ce travail d'accessibilité sur les conférences elles-mêmes?
Alors, c'était un moment très fort. Parce que, alors, on est plus l'année en tête, presque 2010. Je suis allée pour 2011. Donc, c'était un moment très fort parce que la première année où j'y suis allée, c'était en 2011. Et en 2010, c'était mon conjoint qui y avait été. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de langue des signes. Et il n'y avait pas de vélotypie en direct.
On explique la vélotypie, c'est des gens qui, au clavier, font la transcription en temps réel pour pouvoir faire le sous-titrage en temps réel des textes.
C'est ça. La vélotypie, en fait, il y a une personne qui tape, qu'elle a entendu. Il y en a une deuxième qui va corriger ce que la première personne a tapé. Et il y en a une troisième qui va valider la phrase qui a été transcrit et qui va être envoyé. Comme on voit, il y a été en 2010, ben, il n'y avait pas de vélotypie ni de traduction en langue des signes. Et j'avais dit, mais pourquoi toi, tu as le droit et pas moi, alors qu'on fait le même métier. Et j'avais posé la question sur Twitter à Paris, à l'association de Paris Web en direct, parce qu'à l'époque, on pouvait écrire directement à l'association et il y avait un mur qui s'affichait sur l'écran.
Oui, il y avait le flux Twitter qui concernait l'association était projeté sur grand écran.
Il y avait le flux Twitter qui était projeté directement sur la chaîne. Et à ce moment-là, j'ai envoyé deux tweets. J'ai envoyé un message à mon conjoint en lui disant « Essaye de choper le micro et pose la question directement. Pourquoi est-ce que pas sous-titré en direct et pourquoi il n'y a pas de langue des signes ?» Mon mari, étant Karine quand même à prendre la parole dans des moments un peu difficiles, a quand même réussi à poser la question en direct à l'association qui, elle, s'est rendue compte qu'effectivement, c'était un peu... demain, Une association de ce type n'est pas d'accessibilité, alors qu'elle promeut le standard du web et l'accessibilité. Du coup, l'équipe m'a écrit l'année, enfin, toute l'édition, l'équipe m'a écrit en me disant, ben, on est vraiment désolé, on va faire ce qu'il faut. Bon. L'année d'après, ils me recontactent en me disant, ça y est, on a trouvé les sponsors pour faire du sous-titrage et de la traduction en langue des signes. Je leur dis, ben, génial, je viens. Et là, ils me disent, mais tout ça, tu peux proposer une conférence. Et là, j'ai proposé une conférence à Paris Web en disant, voilà, je propose une conférence qui était sur le sous-titrage, d'ailleurs, à l'époque. Mon sujet a été choisi. Et donc, la première fois que je suis venue à Paris Web, ben, j'ai fait une conférence. Pour la première fois de ma vie, en plus. Et ça s'est super bien passé. Enfin, c'était vraiment un truc incroyable pour moi, qui a vraiment. Je crois que c'est un événement qui a vraiment eu un moteur et un impact aussi important sur ma vie professionnelle.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Sophie Drouvroy pour parler surdité. Alors, on vient d'entendre Oshi dans une chanson émouvante où elle annonce sa future surdité, chanson qui a été reprise par nombre de personnes sur YouTube en langue des signes. Alors, excuse ma totale absence de sensibilité en tant qu'animateur radio et développeur web qui plus est valide, mais que peut-on dire à quelqu'un qui va perdre l'usage de son oreille?
Compliqué. Question compliquée. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne peux pas dire que ça va bien aller, c'est un peu compliqué. Quelqu'un qui va perdre l'usage de son oreille, ben, ça va aller. Ça va être difficile, mais ça va aller. Il faut se faire appareiller, il faut essayer de pailler. C'est pourri quand même. Non, je ne sais pas quoi dire en fait.
On peut dire que l'avantage, c'est qu'elle entendra moins de choses désagréables?
Pas sûr que ça soit une bonne chose. Non, je suis pas sûr que ça soit une bonne chose. Comment je peux dire ça? En fait, je peux comprendre à moitié qu'elle a vécu. Moi, je suis sûre. Non, je ne sais pas ce que c'est entendre. Par contre, ce que je sais, c'est la. Je peux comprendre que la souffrance qu'on peut avoir quand on perd l'audition. Parce que moi, en étant sourde sévère, je suis passée à une sourdité profonde où je n'entendais plus rien avec mon appareil. Donc, je peux comprendre le fait de ne plus entendre, de se dire qu'on va être dans la silence, enfin, pas éternel, mais dans le silence pour toujours. Ça, je peux comprendre. Ça va aller. C'est ce qu'on peut dire à quelqu'un. Que ça va être très difficile sur le coup, mais ça va aller parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'aides techniques qui peuvent nous permettre d'entendre. Il y a les appareils, il y a les implants, il y a les implants cochléaires, pardon. Il y a des aides techniques, donc, comparé à il y a 40 ans où on pouvait pas téléphoner, c'était compliqué. Aujourd'hui, on a les SMS, on a les mails. Donc, je crois que le plus dur, c'est d'accepter qu'on va perdre quelque chose. Ça, c'est le plus dur. Que ce soit une sourdité ou pas une sourdité. Le plus dur, c'est d'accepter la perte d'un champ. Mais automatiquement, on va développer d'autres sens. Bah, par exemple, quand on parle, on va développer le toucher, par exemple. Le toucher est vachement sensible. L'odorat aussi. Il y a des choses qu'on va développer. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse, en fait.
Qu'est-ce qui est le plus excluant en étant sourd? Ne pouvoir comprendre ou ne pouvoir intervenir?
Les deux, parce que j'aime pas ne pas pouvoir comprendre et j'aime pas ne pas pouvoir intervenir. Donc, c'est, pour moi, c'est les deux. Et ne pas pouvoir comprendre quelque chose qui est pour tout le monde, par exemple, ben, ça crée de la frustration, c'est pas forcément génial. Après, ne pas pouvoir intervenir, ça veut dire qu'on ne peut plus donner son avis, on n'est plus traité comme une personne à part entière. Enfin, c'est quelque chose de terrible. Je peux être traité comme une personne à part entière. Donc les deux.
Donc Sophie, tu as décidé de te faire appareiller, c'est-à-dire de te faire poser une oreille bionique. On peut dire ça comme ça fait plus rêver, hein. Que peut-on dire à une personne qui va découvrir l'audition?
Alors moi, j'ai choisi de me faire poser une oreille bionique, oui, mais j'ai choisi deux oreilles bioniques, parce que l'autre, c'était tout marrant, en fait. Non, on rigole, on rigole. Non, le plus important pour moi, c'était d'avoir quelque chose de vraiment équilibré, les deux oreilles. Comme j'avais perdu oui, d'un côté, complètement, et je me suis dit, ben, l'autre, elle va me lâcher aussi, parce que les deux en même temps, et... C'était plus simple pour moi en termes de logistique, d'opération, tout ça, rééducation. Après, quelqu'un qui va découvrir l'audition, ça dépend dans quel sens on en parle. Si c'est découvrir l'audition quand on est enfant ou quand on est adulte, c'est pas la même chose. Un enfant, oui, il va l'affiner comme quelque chose de naturel, puisqu'il aura toujours été comme ça. Un adulte qui va découvrir l'audition, ça va être quelqu'un qui, par exemple, a déjà entendu et qui est implanté par la suite. Il va redécouvrir des sons qu'il avait, qu'il n'entendait plus. Là, moi, j'ai des personnes comme ça que j'ai déjà rencontrées qui me disent, mais moi, me faisant opérer, j'ai redécouvert le son des voyous. En fait, c'était à l'époque où j'étais pas implanté. Alors, je disais, mais comment c'est possible d'entendre les oiseaux? Et les gens me disaient, bah oui, mais on redécouvre des sons qu'on a perdus de vue.
Et quelles furent tes premières sensations une fois opéré?
Alors, ça dépend dans quel laps de temps.
Ben justement.
Et on prend le laps de temps où c'était dans les heures qu'on suivit mon réveil. Je dois dire que j'ai eu la tête très loin. J'ai eu l'impression d'avoir un rouleau compresseur qui m'était passé sous la tête, comme ça. Après, tu dois prendre l'acte de temps à 3 semaines, j'étais dans le silence complet parce que je n'avais pas encore reçu mon nouveau implant, donc il fallait quand même attendre la cicatrisation qui a été assez longue. Non, c'était pas. Il y avait quelque chose de plus, mais ça m'a pas donné plus que ça.
Et quel est le premier son qui t'a ému?
C'était la voix de mon mari et de mon fils. Pourquoi? Parce qu'il y avait tous les deux la même voix. Alors, un homme et un enfant qui parlent en même temps, ça fait bizarre parce que c'est deux fois la même chose. Et ça fait vraiment bizarre. Ça, c'est quelque chose de. C'est le premier son bizarre, je dirais. Après, le son qui m'a le plus surpris, pour me permettre de rajouter deux, trois trucs. Le premier son qui m'a vraiment surpris, c'est d'entendre l'eau couler dans les tuyaux du radiateur. J'entendais le glou-glou-glou dans la canalisation. Je me disais, c'est pas possible, il y a un problème. J'entends pas, qu'est-ce qui est trop fort?
Je te confirme qu'il y a peut-être un problème dans le chauffage central.
Le truc qui m'a vraiment touché, c'est le chant des oiseaux. Alors, au début, c'était vraiment un bruit pour moi parce que je n'arrivais pas à faire la différence entre les pies et les meneaux, par exemple. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai appris à apprécier. Alors, vraiment, il y a des moments où je me dis, mais c'est pas possible, mais j'arrive jamais, quoi. Et oui, on m'a bien confirmé qu'un oiseau, ça n'arrêtait pas de chanter quand on avait marre. Il n'y a pas de bouton en F, puis ça chante et il faut faire avec. Mais non, le son qui m'a vraiment ému, c'est le son des oiseaux. Je ne pensais pas que ça pouvait aller aussi loin dans ce détail sonore.
Y a-t-il eu un travail de réadaptation?
Ah oui, ah oui.
J'ai cru comprendre en lisant ton blog que tu as revu plusieurs fois l'audioprothésiste pour affiner les réglages et qu'au début d'ailleurs c'était douloureux et qu'après ça s'est arrangé.
Alors oui, il y a eu un travail de réadaptation parce que quand c'est implanté, en fait, on a, si vous voulez, l'opération consiste à intégrer des électrodes dans la cochlée qui font qu'elles retransmettent un son électriquement au cerveau. Et donc, les sons qu'on reçoit par le biais, par un stimuli électrique, l'audition n'est pas la même. Donc, par exemple, avant, on entendait bababababa, et bah, avec les enfants, la première chose qu'on entend, c'est pip, 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 c'est les bruits électriques qu'on entend. C'est métallique, c'est froid, c'est vraiment pas agréable. Enfin, pas agréable. Et quand on n'a jamais entendu, on fait avec, et on dit, ah, bah, tiens, il y a un bruit, donc, bah, c'est nouveau. Oui, il a fallu que je revoie plusieurs fois, enfin, que je retourne plusieurs fois à l'hôpital pour pouvoir faire les réglages, parce que, justement, j'avais une excision au niveau des oreilles, de manière à ce que ça soit réglé le plus précisément possible. Et donc, il y avait comme, après, on me l'a toujours dit, mais à l'hôpital, on sait ce que tu veux et on sait où tu veux en arriver. Et à chaque fois, je leur disais, mais là, ça va pas, c'est trop fort, c'est pas assez fort, et donc, la personne, c'est vraiment face de moi, ne comprenait pas forcément mon besoin, et c'était pas simple, parce que, d'une part, moi, je savais pas trop comment vous expliquer, et elle savait pas trop comment interpréter mes propos, alors que, ben, c'est vrai que, c'était pas, comment dire, me laissait pas aller avec les réglages, en disant non, là, ça va pas, c'est trop fort, il y a trop d'aigu, il y a trop de grave. Et donc, à un moment donné, il a fallu trouver un bon réglage. Donc, j'ai changé de personne qui faisait les réglages. Et là, en fait, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui comprenait la sourdité comme elle était. Et à partir de ce moment-là, où il y a eu le bon contact avec la personne qui a fait les réglages, on s'est tous compris, et là, bah, ça arrive de mieux en mieux, tu as fini les réglages comme il fallait.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Sophie Drouvois pour parler surdité. Sophie, après ton opération, t'es-tu aperçue d'imperfections sur les technologies d'accessibilité à ce moment-là?
Ben oui, toute technologie a des imperfections, déjà, malheureusement. Oui, il y a des limites. Parce que quand j'ai eu mes implants, en fait, je me suis retrouvée face à un mur de son énorme. Il y avait toutes les fréquences, les graves, les aigus, les moyens. Et c'était un truc énorme pour moi, parce que comme je n'entendais pas les aigus avant, eh ben, tous les sons que j'avais étaient étouffés, c'est comme si, comment je peux donner comme image, c'est comme si, faut pas comparer ça avec des lunettes, mais c'est comme si, j'étais, avec des lunettes, mais que vous voyez pas, pas la bonne
Analogie.
analogie. Là où ça a été difficile, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de sons, mais que mon cerveau, oui, n'était pas préparé à l'analyse de tous ces sons qui sont arrivés par le biais de mon appareil. Il y avait, comment on pourrait dire, trop de détails, tout le détail. C'était énorme. Déjà, la quantité qu'on peut avoir, moi, ou même moi, je me disais, mais comment les gens peuvent entendre autant de choses? C'était un truc énorme. Après, il y a d'autres limites, enfin, après, il y a d'autres choses que je regrette un peu. Et que, par exemple, aujourd'hui, avec la dernière version des enfants, on sait ils sont connectés. Donc, forcément, ils sont connectés par le biais du téléphone en Bluetooth. Et donc là, on me dit que oui. Est-ce qu'il y a assez de sécurité? Est-ce que, parce que mes enfants, on peut les traquer, on peut les localiser. Et donc là, c'est problématique parce que je me dis, mais alors, si quelqu'un me pirate mon téléphone, il peut me localiser aussi mes enfants. Enfin, il y a tout un scénario qu'on peut se faire dans la tête en disant, bah oui, mais par exemple, le RGPD, la localisation, la donnée personnelle, tous ces trucs-là, comment ça se passe? Parce que moi, je posais la question au fabricant, il n'y a jamais eu de réponse. J'ai posé la question à l'hôpital, On m'a dit oui, c'est important pour pouvoir faire les statistiques sur les aides, comment ça évolue, machin. Ok, je veux bien comprendre que ça puisse contribuer à la recherche, à l'amélioration. Mais qu'est-ce qui nous garantit que mes données personnelles sont vraiment protégées? Ce n'est pas la réponse.
Et que ton intimité, surtout, est respectée.
Oui, aussi. C'est pareil, à chaque fois que je vais faire mes réglages, le régleur, tu sais combien de temps l'appareil a été allumé, combien de temps j'ai entendu, si j'ai entendu dans un environnement calme, rien ou autre. Il faut savoir combien de temps mes deux antennes d'implants ont été connectées ensemble. Il faut savoir que j'ai activé l'oreille gauche ou l'oreille droite. C'est pas mal, hein, tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui m'a un peu perturbée quand j'ai eu mon implant, parce qu'au début, on me disait, ah, c'est bien, t'as mis tes implants assez longtemps. Alors, c'est vrai que moi, quand même, mon capacité, elle met très longtemps. Donc, en fait, je les mets quand je me réveille, je les enlève quand je me couche. Ce qui veut dire quand même que c'était des grandes journées, hein. Ce n'est pas des journées de 8 heures, donc la capacité de port, elle est je ne vais pas donner le chiffre, mais elle est assez grande, parce que les régleurs me disent, ah oui, tu devrais porter longtemps. Alors oui, je vais me donner 24 heures, mais même à la moitié de verre bourré.
Ça restera qu'entre nous que les bars sont bruyants jusqu'à
Non, mais
2 heures du matin.
tu vois. Oui, non, les verres sont prenants, on confirme. Et non, les verres, c'est pas super, parce qu'on ne peut pas se prendre les gens avec qui on discute. Il y a trop de bruit dans ces verres. En dehors des verres qui trinquent, les pas des gens qui dorment, non, c'est trop bruyant. C'est vraiment pas un environnement que j'aime.
Sois rassurée, pour les entendants aussi, des fois, c'est compliqué. Sophie, tu es sourde oralisante, et c'est pour ça qu'on peut faire cette interview justement aussi facilement. Est-ce que l'opération t'a permis de mieux te faire comprendre?
Oui, parce que comme j'entends mieux, j'entends ce que vous dites. Donc forcément, ma voix a évolué par rapport à il y a 5 ans, puisque maintenant, ça va faire 5 ans que vous êtes opéré. Une voix qui est différente, qui est beaucoup plus, bon, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais plus audible, plus fluide. Et c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont fait la remarque que j'avais une voix qui était beaucoup moins nasale. Alors, je ne sais pas si ça se ressent ou pas à la radio, comme ça dépend un peu, c'est pas trop. Mais oui, ma voix a changé depuis l'opération, tout simplement parce que j'ai récupéré des aigus que je n'avais pas avant.
Est-ce que cela t'a remis en confiance?
Oui et non. Oui et non, parce que pour les 5 ans, il y a quand même 2 ans de Covid et les 2 ans de Covid ont été assez compliqués avec les masques.
Ah.
Et avoir les masques, ça a été une bonne chose, en fait, parce que les gens ne se rendent pas compte. Mais plus avoir des masques autour de soi, on se retrouve complètement empêché de comprendre. Ça, c'est une chose qui, je répète, aurait un impact aussi important sur ma vie. Et puis là où je me suis rendu compte aussi avec le Covid, c'est que je me suis rendu compte que je comprenais plus de choses que je n'aurais pu imaginer. C'est-à-dire aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui a un masque, je vais faire l'effort supplémentaire d'arriver à le comprendre sans le regarder. Et donc, une fois sur deux, ça marche parce que c'est des phrases qui sont assez courtes, enfin, c'est des phrases du quotidien. Et ça permet, on peut dire ça comme ça. Ça oblige à faire un effort supplémentaire de souplesse mentale. C'est vrai que je me suis rendu compte que je m'entendais quand même beaucoup mieux qu'avant. Donc, je comprenais beaucoup mieux aussi.
Revenons sur un autre point de la technologie. De grandes entreprises travaillent sur des technologies assistives. Par exemple, Microsoft a annoncé cette année que ses lunettes de réalité augmentée auront une application de sous-titrage en temps réel. Qu'est-ce que tu en penses?
Déjà, il faudrait que j'arrive à les essayer. Je l'ai dit, je vais avec Cobaye hein, pour les essayer, pour voir ce que ça peut donner.
Je pense que si tu viens à Paris Web, tu auras un contact pour te les prêter.
Peut-être, peut-être. Par contre, vous devez accepter des lunettes, les Google Glass. Faut aller au cinéma avec. Et c'était une cata.
Aïe.
C'est quelque chose, après les casques, les lunettes de réalité augmentée, c'est peut-être pas tout à fait la même chose, ça a peut-être évolué entre temps. Mais les premières lunettes connectées que j'ai essayées, en fait, quand tu es au cinéma, il ne faut pas bouger la tête.
Ah.
Parce que tu as les lunettes, tu as le sous-titre sur ton verre, qui est à un certain niveau de ton verre. Mais en fonction de ce que tu regardes sur l'écran, le sous-titre peut être en bas de l'écran, comme il peut être en haut de l'écran. Ou si tu penses un peu la tête sur le côté, il est de travers. Et ce n'est pas quelque chose qui va te remettre à l'horizontale automatiquement. Donc, en fonction de comment tu vas être positionné au cinéma, tu dois t'aller physiquement pour avoir le sous-titre au bon endroit où toi, tu as décidé d'avoir. Donc, je dirais que ma première expérience n'a pas été positive parce que j'ai failli m'en sortir avec un torticolis. Et quand tu es au cinéma, bah, t'aimes bien te mettre comme tu veux, tu mets ton bras, enfin, tu vois, tu t'assois comme tu as envie, et là, ce n'était pas possible. Mais, je pense que ça peut être assez intéressant dans le sens où si on arrive à avoir une technique qui peut nous afficher des sous-titres en temps réel, je vous dis, c'est bien.
CPU est une émission de radio disponible en podcast. La radio est le média, à ma connaissance, le moins facile à rendre accessible. Que pouvons-nous faire à la mesure de nos moyens bénévoles? Oui, je dis bénévole parce que je ne suis pas Radio France ou je ne suis pas un gros groupe commercial.
C'est vraiment, peut-être que tu fais un groupe commercial un jour. Hein. Ce que vous pouvez faire, déjà, c'est proposer aux auditeurs s'ils veulent bien participer à la transcription sur leur interview, par exemple. Donc ça, c'est une première piste. La seconde, c'est d'utiliser des outils de reconnaissance vocale. Il y a quelques outils de reconnaissance vocale qui marchent plus ou moins bien. Bon, il faut les tester par rapport à la radio qu'on utilise. Enfin, il faut vraiment tester pour pouvoir juger de la qualité de la transcription écrite qu'on veut obtenir. Et éventuellement lancer un appel aux bénévoles, leur demandeur, qui veulent bien contribuer à l'inclusion des personnes sourdes, des malentendantes, par un appel directement en leur disant « Hey, il y a ma copine là, qui voudrait comprendre mes podcasts de ce pays, donc ce serait bien que tu m'aides, enfin, des trucs comme ça. » Parce que c'est vrai que moi, les podcasts, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Les podcasts sont aujourd'hui une nouvelle technologie qui n'a pas son moyen d'accessibilité. À savoir qu'il n'y a pas de transcription écrite pour les podcasts, en tout cas pas de manière automatique, et qui le fera peut-être quelques années quand on aura évolué dans les différentes techniques, comme pour la vidéo. Au début, la vidéo, quand elle arrivait, il n'y avait pas de sous-titres. Donc aujourd'hui, il y en a. Bah, les podcasts, ça va peut-être faire pareil, ça va évoluer. C'est obligé. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, il faut citer les personnes qui interviennent sur la radio. Utiliser des techniques de reconnaissance vocale, ça, c'est un moyen. Après, malheureusement, on n'est pas trop mieux.
Et je remercie infiniment, entre autres, l'April, dont l'équipe Transcription a retranscrit certaines de mes émissions. Il y a aussi Stéphane Deschamps qui avait retranscrit sa propre interview. En tout cas, Sophie, c'est vraiment un miracle technologique qu'on est arrivé à faire. C'est une première pour moi en 35 ans de radio de faire une interview d'une personne sourde, qui plus est à distance, et qu'on y soit arrivé, que ça soit absolument fluide. Et puis surtout, c'est un immense bonheur pour moi de te revoir, puisqu'on se connaît. Cela montre justement que la technologie, là où elle est très belle, c'est qu'elle essaie en sorte d'être inclusive. Et donc, il ne faut absolument pas oublier ce volet-là. Mille merci, Sophie.
Merci à toi pour l'invitation.
Et peut-être que cette émission sera retranscrite. Donc, vous retrouverez justement le dialogue en format texte sur la page web de l'émission cpu.pm/0194. Et nous remercions infiniment ceux qui nous aident justement sur la préparation de cette émission. À ciao. Je me permets de le faire en langue des signes. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le voir et pas nos auditeurs.
C'est exactement ça. Alors, pour l'expliquer, pour les personnes qui nous entendent, en fait, il faut ouvrir la main et la paume droite et la placer sur le menton et la diriger vers la personne qui est en face de vous, en faisant un signe qui va vers la personne pour vous montrer que oui, on la remercie et que ben oui, merci à toi pour l'invitation. Ça a été vraiment un plaisir de faire cette interview qui a été aussi pas une grande première, mais quelque chose de mémorable et je pense que je me rappellerai longtemps.
Merci à toi. Mille merci.